Notre FM.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient, il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire, l'accord noué entre les États-Unis et l'Iran doit être signé vendredi en Suisse dans un luxueux complexe hôtelier près de Lucerne, selon le ministère suisse des Affaires étrangères. Un vice-ministre iranien des Affaires étrangères a assuré que le blocus américain des ports iraniens, en place depuis environ 2 mois, a été levé, à 2 jours donc de la signature de l'accord. Et en France, la vague de chaleur qui devrait toucher le pays à partir de demain risque de faire culminer le thermomètre à des pointes de 40 degrés dimanche, a averti Météo France. Nous l'avons évoqué dans les titres, l'accord noué entre les États-Unis et l'Iran doit être signé vendredi en Suisse dans un luxueux complexe hôtelier près de Lucerne, a annoncé le ministère suisse des Affaires étrangères. Un vice-ministre iranien des Affaires étrangères a assuré de son côté que le blocus américain des ports iraniens, en place depuis environ 2 mois, a été levé avant donc la signature de l'accord. Le chef de la diplomatie iranienne a insisté sur l'importance de mettre fin à la guerre au Liban entre Israël et le Hezbollah pro-iranien dans le cadre du protocole d'accord conclu avec Washington. Mais comment cet accord est-il justement accueilli au Liban, victime de cette guerre au Moyen-Orient ? À nos micros, le député ex-ministre libanais Marwan Amadeh.
L'espoir, évidemment, domine, alors que quand même les combats se poursuivent encore dans certaines régions du Sud. Les Israéliens cherchent la consolidation de certaines de leurs lignes, et le Hezbollah cherche à quand même continuer cette guerre qu'il avait commencée et qui continue. Mais le Liban officiel a d'abord été assez étonné, pour dire, pour utiliser des mots doux et simples, puis assez désarçonné parce que il n'avait pas été mis au courant de l'imminence de l'accord et de l'ampleur de la place que le Liban occupe dans l'accord. Maintenant, l'accord ne prévoit pas un retrait israélien, mais il prévoit 2 choses importantes, le cessez-le-feu total, et il prévoit aussi le rétablissement de la souveraineté de l'État libanais, ce qui peut être adressé d'une part à Israël, puisque ça implique un retrait en fin de compte, mais aussi au Hezbollah, puisque cette souveraineté ne peut s'exercer que par la remise des armes à l'État libanais. Ce qu'il s'agit pour le président Joseph Aoun et pour le gouvernement de M. Nawaf Salam, c'est d'abord d'amortir le choc. Donc, il faut recoller pour le gouvernement libanais, pour le président libanais, il s'agit avant les négociations avec Israël, qui vont reprendre sous les auspices américaines le 22, il faut un peu recoller les morceaux à Beyrouth et donner des instructions à la délégation pour que les priorités proprement libanaises soient enfin mises en exergue et non pas les desiderata de l'Iran d'une part et d'Israël de l'autre, c'est-à-dire revenir à la fameuse équation que Israël nous restitue les territoires et que l'Iran rende les armes à l'armée libanaise.
Marwan Amadeh, député et ex-ministre libanais, au micro de François-Xavier de Calonne. Et le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, s'est exprimé à l'Assemblée cet après-midi sur la situation au Liban. Il renvoie la responsabilité au Hezbollah, qui a entraîné, selon lui, le pays du Cèdre dans la guerre. Jean-Noël Barrot.
De mars dernier, c'est le Hezbollah qui a entraîné le Liban dans cette guerre qu'il n'avait pas choisie. Si les autorités libanaises ont fait preuve par la voix du président qui prennent des risques immenses en le faisant, des décisions pour le désarmement du Hezbollah, ça n'est pas un hasard. C'est qu'ils considèrent que, au fond, le Hezbollah ne sert pas la cause du Liban, qu'au fond, le Hezbollah tient le Liban en otage. Et c'est pourquoi, dans un geste historique, les autorités libanaises ont accepté de, ou ont proposé au gouvernement israélien un dialogue diplomatique permettant d'aboutir à un cessez-le-feu, d'aboutir au retrait définitif d'Israël du Liban, d'aboutir au désarmement du Hezbollah, la restauration de l'autorité de l'État et d'un État fort, disposant du monopole des armes, est capable de protéger l'ensemble des communautés, et notamment la communauté chiite. Pour ce qui concerne les autorités françaises, eh bien nous nous tenons à l'écoute, aux côtés des autorités libanaises. Le ministre des Affaires étrangères était là la semaine dernière, et vous le savez très bien, leur priorité, c'est le désarmement du Hezbollah, la restauration de l'autorité de l'État et le retrait d'Israël permettant au Liban de recouvrer sa pleine intégrité territoriale.
Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Et le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a remercié aujourd'hui l'Iran d'avoir permis de mettre fin, je cite, à l'agression israélo-américaine. L'accord trouvé entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient doit être le signal de relance de l'économie, a affirmé le ministre de l'économie, Roland Lescure, à Bercy lors d'un point presse autour des prix du carburant.
Il y a encore beaucoup de choses à préciser, des choses sans doute à finaliser, des négociations à terminer. Mais globalement, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Je voudrais dire aussi qu'on a eu ces dernières semaines des nouvelles macroéconomiques qui étaient pour le moins en demi-teinte, et que cet accord de paix qui a été signé, ça doit être le signal de la relance. On doit pouvoir faire en sorte que l'économie française retrouve un chemin de la croissance dynamique dans les semaines qui viennent. Les conditions seront réunies, à condition évidemment qu'on s'y mobilise tous, qu'on y contribue tous. La relance, ça ne se fera pas par les deniers publics, ça vous l'avez bien compris, mais elle se refera par un retour de la confiance collective. Les aides sont évidemment maintenues, elles avaient été annoncées pour passer l'été, et elles seront évidemment distribuées comme prévu. Je peux vous dire que pour l'aide grand rouleur, on est à ce stade à près de 900 000 demandes enregistrées, et du fait des délais de versement, on aura 667 000 versements. Ils ont été envoyés hier, ils arriveront dans les comptes des Françaises et des Français d'ici demain. Évidemment, ces aides sont bienvenues, notamment pour soutenir la saison touristique. Et donc voilà, maintenant c'est le temps de la relance. L'économie française doit être de retour, et on a de bonnes nouvelles qui nous permettent d'y croire aujourd'hui.
Roland Lescure, ministre de l'économie. Le G7 se poursuit à Évian, en Haute-Savoie. Les dirigeants, en présence de Volodymyr Zelensky, ont signalé leur volonté commune d'intensifier la pression sur Moscou pour arrêter la guerre en Ukraine. Donald Trump a promis lui-même de faire tout son possible pour y parvenir. Dans le reste de l'actualité, le pacte Asile et Migration, un ensemble de textes qui réforme en profondeur la politique de l'asile sur le sol européen, est entré en vigueur vendredi dernier en France. Il modifie les procédures françaises en ce qui concerne l'asile aux frontières ou encore les expulsions. Et pour le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, il s'agit, je cite, de mieux contrôler nos frontières. On l'écoute.
Ces nouvelles règles harmonisées à l'échelle de l'Union européenne, que vont appliquer l'ensemble des États membres de la même façon, prévoit d'abord ce qu'on appelle un filtrage sécuritaire, avec un Eurodac qui a été renforcé. On va pouvoir prendre la biométrie de manière contrainte, et ça n'existait pas. Voilà une mesure sécuritaire qui est attendue par nos concitoyens. On instaure une procédure d'asile à la frontière, c'est-à-dire que les personnes ne rentreront pas sur le territoire national, seront maintenues à la frontière le temps que la demande d'asile est examinée. On fluidifie les transferts Dublin, c'est-à-dire que les personnes, les migrants qui relèvent d'autres États membres pourront être transférés par la France dans cet État pour que sa demande soit examinée, avec un délai de responsabilité qui a été allongé de 9 mois à 3 ans. Sur simple notification, il n'y aura plus besoin de décision, d'instruire. C'est un pacte qui, au contraire, vient renforcer les contrôles aux frontières et vient renforcer la gestion de l'asile. Je me permets de vous rappeler qu'on parle de l'asile, de l'asile. Il ne s'agit pas de déverser des milliers de personnes. Il s'agit de mieux contrôler nos frontières.
Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Vous rappelez-vous du naufrage de migrants dans la Manche en novembre 2021. Ce matin, le parquet national anticriminalité organisé a ordonné un procès dont la date reste inconnue pour les 14 mis en cause. Tous sont liés à des réseaux de passeurs et seront jugés en correctionnel pour la disparition de 31 personnes. Clara Dubanchet, quelle est l'ampleur de cette affaire ?
Le naufrage dont il est question, Nawel, c'est le naufrage de migrants le plus meurtrier à ce jour dans la Manche. Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021, 31 hommes, femmes et enfants ont perdu la vie à la limite des eaux françaises et britanniques. Ils avaient embarqué près de Dunkerque, à bord de ce que les autorités appellent les small boats, une embarcation de fortune utilisée par les passeurs, surchargée, inadaptée à la navigation en pleine mer et manquant de gilets de sauvetage. Le bateau des victimes a chaviré, la plupart étaient afghanes ou irakiennes. Qui se cache derrière l'organisation de cette traversée pour l'Angleterre ? 14 personnes sont suspectées d'avoir participé à des réseaux d'immigration illégales. Leurs rôles sont divers, organisateurs de la traversée, chauffeurs ou encore logeurs. Mais tous sont poursuivis, notamment pour homicide involontaire, aide au séjour irrégulier en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. Parallèlement, 7 militaires français sont aussi mis en examen pour non-assistance à personne en danger. L'avocat des 113 parties civiles aspire à ce que ce procès soit l'occasion pour certaines familles de victimes de s'exprimer pour la première fois. Au moins 270 migrants ont trouvé la mort dans la Manche depuis 2018, dont 6 depuis le début de l'année.
Et dans un tout autre volet, les résultats complets de l'autopsie de Liana, retrouvée morte le 4 juin dans le Gers, n'ont à ce jour pas été communiqués au parquet d'Agen, a-t-il annoncé dans un court communiqué. La vague de chaleur qui devrait toucher la France à partir de demain risque de faire culminer le thermomètre à des pointes de 40 degrés dimanche, a averti Météo France. Et enfin, sur le Mondial 2026, il y a des belles affiches ce soir. Les Bleus, en quête d'une troisième étoile, font face au Lion du Sénégal à 21h. Et l'Algérie rencontrera l'Argentine et le grand Lionel Messi. Et attention à l'horaire, le coup d'envoi est prévu à 3h du matin. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.